Alors, on a une tradition ici à Nostalgie, quand on reçoit des artistes de légende, comme on le dit chez nous, c'est de vous demander une anecdote sur certaines de vos plus grandes chansons. Alors, je vais vous donner, c'est un petit jeu comme ça.
D'accord.
Je vais vous donner, alors, par exemple, Désir, Désir. Une anecdote. Boom.
Une anecdote sur Désir, Désir.
Voilà, par exemple.
Je voyais Véronique Jeannot à la télévision. Et elle avait joué dans un feuilleton. Je la trouvais formidable. Et puis après, je l'ai vue dans un film. Ça, vraiment, je la trouvais... C'est un peu un rêve, quoi. Donc, je la trouvais vraiment bien. Alors, un jour, j'ai rencontré... Et elle m'a demandé... le hasard, totalement par hasard, on s'est rencontrés. Elle m'a dit, est-ce que vous pourriez écrire une chanson pour moi ? Alors, pour moi, c'était génial, quoi. Donc, c'était... Je trouvais un super boulot, quoi, de faire des rencontres. Et en même temps, je lui ai dit, écoutez, là, je suis en train de finir un disque et tout, j'aurai jamais le temps, mais peut-être un jour, si j'ai le temps. Le lendemain, j'avais trouvé déjà le début, quand même. Donc, je lui ai téléphoné, mais c'est, et je lui ai dit, voilà, j'ai trouvé un air. Alors, je lui chante. Puis je lui chante le gimmick avec ma guitare là. Puis je lui chante, voilà, je lui dis, ça, je sais pas comment ça pourrait s'appeler, mais voilà, c'est un air. Elle me dit, ça a l'air joli, voilà. Et un quart d'heure après, je l'ai appelé, je lui dis, je sais pas pourquoi, un flash, je me suis dit, ça pourrait être un duo, quoi. Et elle m'a dit, oh, ce serait génial. Bon, alors, bien. Et puis ensuite, j'ai fait écouter la chanson à Alain, et puis, et Alain a trouvé. Le refrain, quoi. Mon premier, c'est Désir. Ça. Je trouvais ça tellement beau. Et voilà, puis on a fait la chanson. Et voilà, l'anecdote, voilà. Désir. Voilà.
Très bien. Autre anecdote sur Belle-Île-en-Mer, par exemple, au hasard.
Belle-Île-en-Mer, il y a long à dire. Belle-Île-en-Mer, j'enregistrais une chanson qui s'appelait Les Nuits sans qu'il moelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de filles séduisantes sur Terre. Et Kim Wilde passait à la télévision. Et à chaque fois que je la voyais, j'avais quand même le cœur qui accélérait un peu. J'ai appuyé sur mon... J'avais un magnétoscope. Et finalement, j'avais une cassette. Dès qu'elle passait à la télé, je courais. Et j'appuyais sur Play Record. Donc, j'avais une cassette avec que Kim Wilde. J'en avais un peu parlé à Alain. Et Alain me dit, bah, écoute... Il me dit, est-ce que tu as une cassette de cette fille ? Je fais, ouais, bah, alors... C'était la pause thé un après-midi, on écrivait une chanson, je ne sais plus laquelle. Je lui montre Kim Wilde, il me dit, évidemment, je comprends évidemment qu'elle te cause une certaine émotion. Alors il me dit, depuis le temps que tu m'en parles, tu ferais bien de faire une chanson qui s'appellerait Les Nuits sans Kim Wilde. Il me dit ça, c'était mon rêve. J'ai dit, bon, génial, quoi, on va faire une chanson qui s'appelle Les Nuits sans Kim Wilde. Petit à petit, on a fait la chanson. On a mis beaucoup, beaucoup. Alors, on a mis du temps à la faire et beaucoup de temps à l'enregistrer. Et finalement, c'est une autre histoire, mais elle est venue chanter dans la chanson. C'était ma première rencontre avec Kim Wilde. Donc, enfin, je l'ai rencontrée sur un plateau de télé. Elle a accepté de venir chanter dans la chanson après qu'on lui ait envoyé la cassette. Parce qu'au début, elle ne comprenait pas qu'on fasse une chanson qui s'appelait Les Nuits sans Kim Wilde. Elle était même très gênée. Et puis ensuite, elle a écouté la chanson. 15 jours après, on a reçu un message. Elle a dit, son manager a dit, Kim adore la chanson. Elle est d'accord pour chanter dedans. Donc je suis allé en Angleterre dans leur studio. Et j'ai chanté, elle a chanté dans la chanson La fin, enlève tes lunettes, etc. Take it easy. Et
Laurent.
Donc voilà, l'histoire d'une longue, voilà, d'une amitié formidable de cette fille qui est une merveille humainement, quoi. Et puis il fallait une face B. Mais un soir, pendant que j'enregistrais cette chanson, Les Nuits sans Kim Wilde, un soir, on enregistrait chez moi, j'avais ma guitare à la main et je trouve un refrain. Je trouve l'air pas mal, j'appuie sur Play Record et je me dis, bon, bah, c'est un petit air que je mets de côté. Le lendemain soir à minuit, après la séance d'enregistrement des Nuits sans Kim Wilde, je réécoute ce que j'avais fait la veille et je trouve le reste de l'air au piano et au clavier. Et donc la musique est finie, je la fais écouter à Alain, je lui dis, bah, peut-être on a une face B pour les Nuits sans Kim Wilde, qui devait être le single. Et on fait la chanson. Et puis là, le disque sort, et c'est Les Nuits sans Kim Wilde qui est le single. Terminé, les mois passent, et 5-6 mois après, je vais jouer au tennis à Fontenay-sous-Bois, un après-midi. J'avais oublié Belle-Île-en-Mer. Hein. Je sors, en sortant du tennis, dans la voiture, je mets la radio et j'entends Belle-Île en mer, du Marie Galante, une radio du Val-de-Marne qui devait être des copains qui avaient fait une radio, quoi. Tellement la diffusion était toute petite, le son partait, c'est un son. Et en même temps, il y avait quelque chose de magique. Alors, j'ai appelé tout de suite quelqu'un avec qui je travaillais à l'époque. Je lui ai dit, dis donc, j'ai entendu Belle-Île en mer, Marie Galante à la radio. Ça m'a fait un effet, comme si ce n'était pas moi qui avais fait cette chanson. Je trouve qu'il y a un truc étrange qui s'est passé. Et donc on a eu rendez-vous à la maison de disques. À la maison de disques, on m'a dit, cette chanson, elle est jolie, mais que tu veux faire quoi, sortir en single, ça n'a pas de chance de marcher. La personne qui était là m'a dit, elle n'a aucune chance de marcher. J'ai dit, bon, bah, je vais la remixer en mettant un peu plus de voix. Une semaine après, j'ai remixé et il m'a donné la même réponse. Je lui en veux pas, parce que bon, s'il y avait quelqu'un qui avait la chance infuse, il serait plus que milliardaire dans toutes les maisons de disques. Tout le monde le chercherait dans le monde entier. Enfin, lui, il a trouvé que Mélie Lambert ne valait pas le coup. Tu trouvais jolie la chanson, mais que c'était pas un single. Puis en passant dans le couloir, là, je vais citer son nom, un monsieur qui s'appelle Christian Ergot, qui était directeur artistique de la maison de disques, il me dit, qu'est-ce que vous écoutiez là? Alors je dis, on écoutait dans le bureau Mélie Lambert, Marie Galante, la face B des Nuits sans Kimoël. Pourquoi faire? Je lui dis, c'est pas mon idée, ce serait... Je me dis, ça m'a fait un drôle de truc, je me demande si on... Ça vaudrait pas le coup de la sortir en single. Il me dit, fais voir, écoute là, on l'écoute ensemble, on l'écoute. Il me dit, ouais. Il me dit, t'as raison. Alors il me dit, tu sais ce qu'il faut faire? Retourner le disque, mettre les Nuits sans Kimoël en face B, faire Belle-Île en mer et voir ce qu'on peut faire dessus. Et avec des bouts de ficelle, on a fait un clip avec zéro. C'est-à-dire, avec à l'époque 50 000 francs, quoi, ce qui était rien pour un clip. Et il a été réalisé par Rachid Bouchared, qui, 15 ou 20 ans après, a eu un Oscar à la Palme d'Or à Cannes, avec je ne sais plus quel film, bref. Hein. Et l'assistante et la productrice du clip, qui nous avait accompagnés pendant le tournage et tout ça, qui s'était occupée de tout manager, pour qu'on puisse être logé au Club Méditerranée en Guadeloupe, qu'on puisse avoir des billets gratis à Air France, qu'à Belle-Île, on ne paye pas, bref. Et donc, c'était Yamina Benguigui, qui maintenant travaille au gouvernement et tout ça. Et c'est marrant, l'histoire de cette chanson est dingue, quoi, parce qu'on a fait le clip, et petit à petit, elle a commencé à passer à la radio. Mais je crois que sur une radio de l'Ouest... Puis après, c'est une radio parisienne. Puis après, c'est monté. Puis ensuite, on a été chanson de l'année. Puis qui est 2-3 ans après, chanson de la décennie. Voilà. Ouais. C'est une belle histoire, hein, grâce au tennis de Fontaine-sous-Bois.
C'est bien. Et puis, on va continuer dans les anecdotes. Bah, Rock Collection. Voilà. Une anecdote par chanson.
Alors, Rock Collection, la musique, d'abord, c'est un soir... J'ai improvisé un air pour un copain avec qui j'étais à l'école primaire. On s'est retrouvés à 5-6 copains dans une maison au Perreux, sur Marne. On avait un copain qui s'appelle Daniel. Puis il lui arrivait toujours des trucs marrants à l'école et tout. Et avant de passer à table, j'ai improvisé avec un air que j'ai trouvé. C'était le même que Recollection, quoi. Ta-da-da-da-da. Et j'ai trouvé un air comme ça en 2 minutes. Et j'ai fait des paroles sur l'instituteur qu'on avait à l'école, les conneries qu'on faisait, tout ça. Bon, bref. Je lui ai chanté cet air-là, puis voilà. Bon. Un ou deux ans après, j'étais producteur d'une fille qui s'appelait Anne C. Sheridan, son vrai nom c'est Anne Calvert, qui a fait beaucoup de chœurs après, une américaine. Et on avait déjà fait un 45 tours avec elle, qui avait un peu marché, tout ça en anglais. Et puis après, je lui ai proposé une musique, c'était encore la musique de Rock Collection, qui m'est revenue à l'esprit. Et elle a fait une chanson, elle a fait un texte anglais dont j'ai toujours la maquette, qui s'appelle Thriller. Bien avant Michael Jackson. C'est la deuxième version de Recollection, c'est Thriller, elle s'appelle. Alors là, cette fois-là, il y avait déjà le gimmick. Et ça racontait en anglais, l'histoire, c'est une fille américaine. Elle avait fait le texte, et c'est une fille qui est poursuivie dans la ville par un gars, quoi. Il s'appelle Thriller, une espèce de poursuite comme ça. Non. Et puis, là, on l'enregistre pas. Puis encore 2 ans après ou 1 an après, j'ai l'idée de raconter des souvenirs personnels, en les illustrant avec des extraits de chansons. Je prends comme air de couplet cet air-là, l'air de Thriller. Et donc voilà, ça, la chanson arrive comme ça. La raison pour laquelle j'arrive pas à savoir, mais je me suis dit il y a 2-3 ans, j'ai pensé que c'est peut-être réellement en entendant une chanson de Claude François qui s'appelait Cette année-là. Et je me suis dit, je me souviens d'avoir dit en écoutant Cette année-là, mais c'est dingue pourquoi il a pas pris des extraits de chansons Cette année-là, tintin. Je me dis, mais il aurait dû mettre, je sais pas quoi. Hein, voilà. Ouais. Alors. C'est vrai que j'ai eu cette idée-là, je ne sais pas si c'est ça, si c'est juste avant l'idée de Recollection ou si Recollection est issu de ça, c'est très possible. On enregistre, alors je fais une maquette de la chanson, et dedans, ça commençait par Apache des Shadows, la première citation. Il y avait Black is Black, je vois encore avoir ces maquettes. Et puis petit à petit, et je vais à la maison de disques et je fais écouter la maquette. Ils me disent, bon écoute, il faut aller en studio pour faire une maquette plus solide, on va dans le studio d'un copain, au Perreux, et on fait une maquette. Et là, à la maison de disques, ils me disent « Ouais, c'est super, mais c'est vraiment pas assez long, on pourra en écouter des heures, quoi. » Donc, j'ai dit « Bon, hop, on a rajouté 5 couplets ou 4 couplets. Et puis, ils m'ont dit « Banco, on y va. » Et ils m'ont dit « Bon, à l'époque, il n'y avait pas... » Moi, j'avais fait 5 45 tours sans aucun succès. C'est-à-dire, je sais pas, on dit toujours que c'est plus dur maintenant, mais moi, on me laissait faire un 45 tours par an. Et il y en a 5 qui n'ont pas marché, ça fait 5 ans, quoi. Mais heureusement, j'écrivais des arrangements pour des gens à l'époque. J'accompagnais Pascal Danel. En 73, j'ai rencontré Alain Souchon. On avait fait J'ai 10 ans, donc j'avais du succès par procuration, quoi. J'étais content, quoi. J'avais pas de frustration. Toujours celle de ne pas être chanteur connu, quoi. Donc j'avais toujours envie de faire des disques, évidemment. J'avais donc un budget limité. Ils m'ont dit, il faut combien de temps pour enregistrer Recollection? J'ai dit, et là, d'habitude, je faisais des 45 tours en 2 jours. Hein. J'aurais dit une semaine. Ils m'ont dit, bon, d'accord, une semaine. Bon. Et au bout d'une semaine, ils m'appellent, ils me disent, t'en es où? Je lui dis, on vient d'enregistrer la rythmique seulement. Quoi. Ouais. Ils me disent, comment on fait? Et donc, le garçon avec qui je travaillais au studio, qui allait être mon éditeur, a dit, bon, écoute, on continue le disque, on ne demande plus de sous. Laurent continue le disque, on y va, on vous demande plus rien, quoi. Et donc, je suis resté un mois et demi pour enregistrer Recollection. Et on a fait Recollection est sorti, voilà. Et je ne m'attendais pas, évidemment, du tout. On s'éclatait pendant qu'on faisait Recollection. C'était génial. Mais, en même temps, on ne s'attendait pas à un tel succès, quoi. Ah ouais, ouais. Je me rappelle, parce que moi, avant, je ne passais pas à la radio, quoi. Donc, là, j'étais accompagnateur d'Alain Souchon et on partait, je me rappelle, en concert dans le nord de Paris. On était en voiture et j'entends à la radio quelqu'un qui dit on va écouter maintenant une chanson que vous avez peut-être déjà entendue une ou deux fois. Ça s'appelle Recollection, c'est un garçon qui s'appelle Laurent Voulzy. Nous, on pense que ça va être le tube de l'été. J'avais le cœur qui battait, je dis, c'est dingue, quoi. Non, parce que je passais jamais à la radio, quoi. Ouais.
Je me suis aussi laissé dire que vous trouvez toujours ça magique de vous entendre à la radio.
Ah oui, j'écoute jamais mes disques. Hein. Mais quand ils passent à la radio, ça m'émeut. Parce que probablement que c'est la radio qui m'a donné envie d'être chanteur. Quand j'étais interne, j'écoutais les radios françaises, mais aussi les radios pirates comme Radio Caroline, que j'écoutais dans le dortoir, sous l'oreiller. J'avais le transistor et j'avais un polochon, parce que si je me faisais piquer, j'avais 8 heures de colle, pas le droit d'écouter, pas le droit de parler, pas le droit d'écouter la radio. Donc on écoutait en douce, quoi. Alors j'écoutais Radio Caroline ou la station anglaise de Radio Luxembourg et j'en prenais plein la tête, quoi. Alors le son partait par moment, pendant une minute il n'y avait plus rien, puis il revenait, c'était du fading, mais c'était merveilleux, quoi. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'être chanteur, d'être un groupe, quoi, ou d'être les Beatles, quoi. Et donc, la radio m'a toujours fait rêver. Et donc, quand j'entends un morceau de moi à la radio, ça me fait toujours un drôle d'effet, quoi. C'est pas du tout de l'autosatisfaction, c'est que je ne comprends pas. C'est que je me dis, c'est quand même dingue, quoi. Là, en ce moment, je suis sur la route, et puis il y a plein de gens en France qui peuvent m'entendre. C'est étrange, quoi. Voilà. Je ne suis pas blasé de ça du tout. Hein. Par contre, écouter mes disques à la maison, jamais. Mais la radio, ça me fait quelque chose d'étrange. Voilà.
Et bien maintenant, en plus du son, vous allez pouvoir avoir l'image grâce au Listen Love Tour en DVD, en Blu-ray, en Digipack également. Et puis avec ce très bel objet, ce très beau livre doré, avec de nombreuses anecdotes sur toute la tournée. Une très belle idée de cadeau pour Noël. Laurent Voulzy, merci infiniment d'avoir été avec
Olivier,
nous.
Merci Olivier, merci beaucoup.